Chapitre 2. L'autel du Grand Turc, place Saint-André des Arcs. Pour ceux qui s'étonneraient de ne pas avoir vu M. Saranty accepter l'offre, si acceptable pour un homme pressé que lui faisait Gibassier, nous dirons que, s'il est quelqu'un de plus fin en général que l'agent de police qui poursuit un homme, si fin que soit cet agent de police, c'est l'homme qui est poursuivi. Voyez le renard et le lévrier. Il était donc entré dans l'esprit de M. Saranty quelques vagues soupçons à l'endroit de ce magyar qui parlait si mal le français et qui, cependant, lorsqu'on lui parlait français, répondait assez intelligemment à tout ce qu'on pouvait lui dire, mais qui, au contraire, quand on lui parlait allemand, polonais ou valaque, trois langues que M. Saranty parlait à merveille, répondait à tort et à travers, ya ou nein, se renfermant immédiatement dans sa gouba et faisant semblant de dormir. Il résultait de ses soupçons que, mal à l'aise pendant la lieue ennemie qu'il avait faite avec lui, à partir de l'endroit où la voiture s'était brisée jusqu'à l'hôtel où il venait de commander son dîner, M. Saranty avait résolu, coûte que coûte, à se passer du secours de son complaisant mais silencieux compagnon de route. Voilà pourquoi il avait demandé une voiture, ne pouvant pas attendre que la sienne fût raccommodée et ne voulant pas prendre place dans celle du noble Hongrois. Gibassier était trop fin pour ne pas s'être aperçu de cette défiance. Aussi, tout en dînant, ordonna-t-il, vu le besoin qu'il avait de rentrer à Paris le lendemain, y étant impatiemment attendu par l'ambassadeur d'Autriche, que l'on mît les chevaux à la voiture. Les chevaux mis à la voiture, Gibassier salua Saranty avec un magnifique haut-le-corps, enfonça son bonnet fourré sur ses oreilles et sortit. Pressé comme il l'était de son côté, il était probable que M. Saranty suivrait la route directe au moins jusqu'à Ligny. Là, sans doute, il laisserait Bar-le-Duc sur sa droite et, par la route d'Anserville, gagnerait Saint-Dizier et Vitry-le-Français. Seulement, à Vitry-le-Français, il y avait doute. M. Saranty, arrivé là, prendrait-il par Châlons en décrivant une large courbe ou filerait-il directement par l'affaire Champenoise, Coulommiers, Crécy et Lagny? C'était une question qui ne pouvait se décider qu'à Vitry-le-Français. Gibassier indiqua donc son chemin par tout le Ligny Saint-Dizier, mais à une demi-lieue de Vitry, il s'arrêta et eut avec son postillon une conférence de quelques minutes au bout de laquelle la voiture se trouva renversée sur le flanc avec son essieu de devant brisé. Il était depuis une demi-heure à peu près dans cette triste position, si bien connue, et par conséquent devait être si bien apprécié de M. Saranty lorsque la chaise de poste de celui-ci parut au haut de la montée. En approchant de la voiture renversée, M. Saranty sortit la tête de sa portière et vit sur la route son magyar qui faisait, avec l'aide du postillon, d'inutiles efforts pour mettre sa chaise en état de continuer la route. C'eût été, de la part de M. Saranty, manqué à tous les devoirs de la politesse que de laisser Gibassier dans un tel embarras, quand, dans une circonstance semblable, Gibassier s'était mis, lui et sa voiture, à sa disposition. Il lui offrit donc à son tour de monter près de lui, ce que Gibassier accepta avec une remarquable discrétion, fixant à Vitry-le-Français le terme de l'embarras qu'il consentait à causer à son Excellence M. de Bornis. C'était le nom sous lequel voyageait M. Saranty. On transporta sur la voiture de M. de Bornis la malle gigantesque du magyar et l'on prit la route de Vitry-le-Français où l'on entrait 20 minutes après. On s'arrêta à la poste. M. de Bornis demanda des chevaux, Gibassier une carriole quelconque pour continuer son chemin. Le maître de poste montra sous sa remise un vieux cabriolet qui, tout vieux qu'il était, parut satisfaire aux exigences de Gibassier. M. de Bornis, tranquillisé sur le sort de son compagnon, prit congé de lui et donna ordre, comme l'avait pensé Gibassier, de suivre la route de l'affaire Champenoise. Gibassier termina son marché avec le maître de poste et partit, commandant au postillon de suivre la même route que venait de prendre le voyageur qui le précédait. Il y avait 5 francs pour le postillon au moment où l'on apercevrait la voiture. Le postillon lança ses chevaux à fond de train, mais on arriva au relais sans avoir rien vu. Au relais, on interrogea maître de poste et postillon. Aucune chaise de poste n'avait passé depuis la veille. La chose était claire, Saranty se défiait. Il avait indiqué la route de l'affaire Champenoise et avait pris celle de Châlons. Gibassier était distancé. Il n'y avait pas une minute à perdre pour arriver à Meaux avant Saranty. Gibassier laissa là le cabriolet, tira de sa malle un costume complet de courrier de cabinet, bleu et or, passa une culotte de peau, des bottes molles, jeta sur son dos le sac aux dépêches, se débarrassa de sa barbe et de ses moustaches, et demanda un bidet de poste. En un instant, le bidet de poste fut scellé, et Gibassier sur la route de Sessanne. Il comptait rejoindre Meaux par la Ferté-Gaucher et Coulommiers. Il ne s'arrêta ni pour boire, ni pour manger, fit 30 lieues d'une traite, et arriva à la porte de Meaux. Aucune chaise de poste, ressemblant à celle que décrivait Gibassier, n'était passée. Gibassier s'arrêta, et se fit servir à dîner dans la cuisine, mangea, but et attendit. Un cheval, tout scellé, attendait aussi. Au bout d'une heure, la voiture attendue avec tant d'impatience arriva. Il faisait nuit close. M. Saranty se fit porter un bouillon dans sa voiture et donna ordre de marcher sur Paris par Clay. Cela suffisait à Gibassier. Il sortit par la porte de la cour, enfourcha son cheval et, contournant une ruelle, il gagna la grande route de Paris. Au bout de 10 minutes, il vit briller derrière lui les 2 lanternes de la chaise de poste de M. Saranty. C'était désormais tout ce qu'il fallait. Il voyait et n'était pas vu. Il s'agissait seulement de ne pas être entendu non plus. Il prit le bas-côté du chemin, galopant toujours, à 1 kilomètre en avant de la voiture. On arriva à Bondy. Là, en un tour de main, le courrier de cabinet fut métamorphosé en postillon, et moyennant 5 francs, le postillon qui devait marcher lui céda son tour avec reconnaissance. M. Saranty arriva. Si près de Paris, ce n'était point la peine de s'arrêter. Il passa la tête par la portière et demanda des chevaux. « Voilà notre maître, répondit Gibassier, et des fameux !» En effet, c'étaient 2 de ces braves chevaux blancs du Perche qui sont toujours hennissants et se battant. « Vous tiendrez-vous tranquille, caronne que vous êtes !» cria Gibassier en leur faisant prendre place au timon avec l'adresse d'un postillon consommé. Puis les chevaux attelés. « Où descendrez-vous, notre bourgeois ?» demanda le faux postillon à la portière de la voiture et le chapeau à la main. « Place Saint-André-des-Arcs à l'hôtel du Grand-Turc, » dit M. Saranty. « Bon, » dit Gibassier, « c'est comme si vous y étiez. »« Et quand y serons-nous ? » demanda M. Saranty. « Oh, Gibassier, dans 1 heure et quart, ça brûlera. »« Allons vite, 10 francs de pourboire si nous y sommes dans 1 heure. »« On y sera, bourgeois. » Et Gibassier enjamba le porteur et partit au galop. Cette fois, il était bien sûr que Saranty ne lui échapperait pas. On arriva à la barrière. Les douaniers firent cette rapide visite dont ils honorent les voyageurs qui voyagent en poste, prononcèrent le mot sacramentel « Allez !» et M. Saranty, qui 7 ans auparavant était sorti de Paris par la barrière de Fontainebleau, y rentra par celle de la Petite Villette. 1 quart d'heure après, on entrait au grand trot, dans la cour de l'hôtel du Grand-Turc, place Saint-André-des-Arcs. Il n'y avait de vacant à l'hôtel que 2 chambres, situées en face l'une de l'autre sur le même palier, le numéro 6 et le numéro 11. Le garçon conduisit M. Saranty, qui choisit le numéro 6. Quand le garçon descendit, « Eh, dis donc, l'ami, » fit Gibassier. « Qu'y a-t-il, postillon ?» demanda dédaigneusement le garçon. « Postillon, postillon !» répéta Gibassier. « Certainement que je suis postillon. Après, est-ce qu'il y a du déshonneur à cela ?»« Mais non, que je sache, seulement je vous appelle postillon, parce que vous êtes postillon. À la bonne heure !» Et il fit en grommelant 2 pas du côté des chevaux. « Eh bien, » demanda le garçon, « que me vouliez-vous »« Moi, rien. Mais c'est vous qui disiez tout à l'heure. Quoi ? Dis donc, l'ami !» « Ah, c'est vrai. Eh bien, voilà la chose. Monsieur Poirier, vous le connaissez bien ?»« Quel monsieur Poirier ?»« Monsieur Poirier, donc. Ah, je ne connais pas de monsieur Poirier. »« Monsieur Poirier, le fermier de chez nous, vous ne le connaissez pas ?»« Monsieur Poirier, qui a un troupeau de 400 bêtes, vous ne connaissez pas monsieur Poirier ?»« Ah, je vous dis que je ne le connais pas. » »« Ah, tant pis, il va venir par la voiture de 11 heures, la voiture du plat d'étain. Vous la connaissez bien, la voiture du plat d'étain ?» « Non. Alors, vous ne connaissez donc rien. Qu'est-ce que vos pères et mères vous ont donc appris, si vous ne connaissez pas M. Poirier ni la voiture du plat d'étain ? Ah, il faut convenir qu'il y a des parents qui sont bien fautifs. Enfin, où voulez-vous en venir avec M. Poirier ? Ah, je voulais vous donner 100 sous de sa part, mais si vous ne le connaissez pas... » On peut faire connaissance, si vous ne le connaissez pas. Mais enfin, pourquoi faire ses 100 sous? Il ne me donnerait pas 100 sous pour mes beaux yeux. Ah non, attendu que vous louchez, mon ami. N'importe, pourquoi monsieur Poirier vous avait-il chargé de me donner 100 sous? Pour lui retenir une chambre dans l'hôtel, attendu qu'il a affaire dans le faubourg Saint-Germain. Et il m'a dit Charpillon, c'est mon nom, Charpillon, et de père en fils. J'en suis bien aise, monsieur Charpillon, dit le garçon. Il m'a dit, Charpillon, tu donneras 100 sous à la fille de l'hôtel du Grand-Turc, place Saint-André-des-Arcs, afin qu'elle me retienne une chambre. Où est la fille? C'est inutile, je lui retiendrai aussi bien la chambre qu'elle. Mais non, puisque vous ne le connaissez pas. Je n'ai pas besoin de le connaître pour lui retenir une chambre. Ah, tiens, c'est vrai, vous n'êtes pas encore si bête que vous en avez l'air, vous. Merci. Ah, voilà les 100 sous. Vous le reconnaîtrez bien quand il viendra. Monsieur Poirier? Oui, surtout s'il dit son nom. Oh, il le dira, il n'a pas de raison de le cacher, son nom. Alors on le conduira à la chambre numéro 11. Quand vous verrez un gros réjoui de bonne mine, avec un cache-nez qui couvre la moitié de son visage et une redingote de castorine marron, vous pourrez dire hardiment, ah, voilà monsieur Poirier. Et sur ce, bonne nuit, chauffez bien le numéro 11, attendu que monsieur Poirier est très frileux. Ah, et puis, je crois que cela ne lui ferait pas de peine de trouver un bon souper dans sa chambre. Eh bien, dit le garçon. Mais moi qui oubliais, dit le faux Charpillon. Quoi? Le principal, il ne boit que du vin de Bordeaux. Bon, il trouvera une bouteille de vin de Bordeaux sur sa table. Alors il n'aura plus rien à désirer que d'avoir des yeux comme les tiens afin de pouvoir regarder du côté de Bondy si Charenton brûle. Et avec un grand éclat de rire qui attestait le plaisir que lui causait cette plaisanterie, le faux postillon sortit de l'hôtel du Grand-Turc. Un quart d'heure après, un cabriolet s'arrêtait à la porte de l'hôtel. Un homme en descendait sous le signalement indiqué par Charpillon, et s'étant fait reconnaître pour ce même monsieur Poirier que l'on attendait, était conduit par le garçon avec force révérence à la chambre numéro 11, où un bon souper était servi et où une bouteille de vin de Bordeaux atteignait, placée à une savante distance du feu, ce degré de tiédeur que lui donne, avant de la déguster, les véritables gourmets.